vous la fais courte, une émission mensuelle de nouvelles. Je vous la fais courte, une émission mensuelle de nouvelles écrite par votre serviteur, lue par des comédiens du cru et ponctuée de musique. Je vous la fais courte, une émission où les nouvelles sont bonnes, d'où qu'elles viennent.
C'est bien ça ? Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Si j'en crois ma collègue, vous êtes ici pour déposer plainte. Si je vous demande de confirmer, c'est qu'il arrive parfois que ce qui a été dit une première fois ne corresponde pas à ce qui est transmis dans un deuxième temps. De toute façon, c'est la procédure. Même si on peut trouver ça contraignant, personnellement, je trouve que la procédure, c'est rassurant. Et même par certains côtés, apaisant. Bon, on n'est pas là pour parler des bienfaits de la procédure. C'est juste qu'il est important que toute personne qui pénètre dans nos locaux en soit informée. Personnellement, je trouve que c'est la moindre des choses. Ça évite les malentendus, les incompréhensions. C'est vrai qu'il faut que les choses soient bien claires dès le début. Prenez le code de la route. Eh bien, si vous conduisez sans connaître, par exemple, la signification des panneaux, c'est l'accident assuré. Bon, allez, on s'y met. On n'a pas que ça à faire. Remarquez, vous pourriez me dire que nul n'est censé ignorer la loi. Et vous auriez raison. Mais nous, ici, on est au service de nos concitoyens. Alors, le minimum que l'on puisse faire, c'est de les informer. Et comme le dit notre chef, c'est un homme très humain, vous seriez surpris. Ce qui va sans dire, va mieux en le disant. Et puis on a parfois affaire à des personnes de mauvaise foi. Donc, pour éviter les embrouilles, comme disent les jeunes, nous préférons informer les justiciables. De toute façon, c'est la procédure. Bon, allez, entrons dans le vif du sujet. Remarquez, suivre la procédure, ça nous permet de nous concentrer sur l'essentiel. D'une certaine façon, on a l'esprit libéré. On n'a pas à se demander si on doit faire ceci ou cela, ça devient parfaitement naturel. Vous, par exemple, si j'en crois mon collègue, vous êtes là pour porter plainte. Ça pourrait être autre chose, mais là, il se trouve que c'est pour une plainte. Si on n'avait pas la procédure, on tergiverserait, on tournerait autour du pot. Résultat, vous ne seriez pas satisfaite, et honnêtement, pour tout vous dire, moi non plus. On peut toujours se plaindre, en disant que la procédure, c'est lourd, et je ne sais quoi encore. Peut-être, mais si on y réfléchit bien, c'est du gagnant-gagnant. Pour vous, c'est rassurant. Et pour nous, ça nous permet d'être complètement à votre écoute, d'être au plus près de vos préoccupations. Parce que si on y réfléchit bien, ce qui est important, c'est l'empathie, la bienveillance. C'est ce qu'on nous a dit pendant le stage de l'empathie aux aveux. Bon, allez, venons-en à vous. Non, parce que contrairement à ce qui se dit, nous suivons régulièrement des formations. C'est pas uniquement du physique, du tir sur cible, faut pas croire. Il y a des formations centrées sur le psychologique, l'accompagnement. Dans notre métier, il faut être sensible à l'autre, être capable d'analyser son langage corporel, déceler les non-dits, préserver sa sensibilité. Il faut que l'autre se sente écouté, compris, qu'il sente la bienveillance. Bon, je parle, vous allez finir par vous demander... Bon, donc, si j'en crois mon collègue de l'accueil, ce sont souvent des stagiaires, et pas forcément fut-fut. D'après lui, vous êtes là pour porter plainte pour viol. C'est bien ça ?
C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin. Ne me lâche pas la main, c'est la fin, le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus.
corps gras. Il va falloir faire quelque chose. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Autant vous dire que le plus tard était le mieux. Je ne saurais dire précisément quand cela a commencé. Est-ce le jour où ma mère m'a expulsée avec maintes crises et douleurs ? Si j'avais eu davantage de jugeote, je m'en serais douté. Dater certains éléments de notre vie s'avère souvent délicat, comme de déterminer la cause d'une guerre. Il faut remonter dans le temps, mais jusqu'où ? Pour ce qui me concerne, est-ce le jour de ma naissance, pendant la grossesse de ma mère, le jour de ma conception, ou le jour où Adam rencontra Ève, le jour du Big Bang ? Qui n'a presque rien à voir. Mais je me demande souvent quand a eu lieu cet événement précisément. Quand j'y pense, je me dis que cet instant, ce moment de bang, est trop énorme pour ne pas échapper à notre entendement. Vous imaginez cette monstrueuse déflagration qui, en l'absence d'air, s'est déroulée dans un silence sidérant. Une naissance sans bruit ni fracas. Et puis, des planètes, des soleils, des systèmes, des galaxies, des trous noirs, un univers de rondeur en expansion. Une création qui tourne, des ellipses. Ceci dit, vous allez certainement trouver que je prends cela bien à la légère. Je prends bien soin de glisser une couche d'humour entre mon corps et moi. Mais il n'en fut pas toujours ainsi, petite. Je ne possédais aucun moyen de me dissimuler derrière une autodérision, de me défendre avec un sens de la répartie. Il m'a fallu du temps pour faire le tour de ce corps. Lui et moi avons longtemps été de parfaits étrangers. Il insistait, parfois lourdement, mais je faisais tout pour l'ignorer. Un corps comme le mien est lourd à porter. Oui, je joue avec les mots, pour donner l'illusion que cela ne me pèse pas. Pourtant, dès le début, il y en a trop. Pas trop ici ou là, non, trop partout. Ce début-là, je peux le situer. 12 ans après le commencement de ma vie. Le jour où ma mère aurait pu me dire, sourire aux lèvres, que j'étais devenue une femme. Au lieu de cela, elle a tenu à m'emmener chez le médecin. Jusqu'ici, il avait pris l'habitude de lui dire, « Ne vous en faites pas, madame, elle va grandir, il n'y paraîtra plus. Ce sera une belle jeune fille, croyez-moi. Elle va bien finir par s'affiner. » « Vous croyez ?» répondait ma mère. Un peu plus tard, il a été aussi question d'hormones, de puberté. Mais il ne fallait toujours pas s'inquiéter. Il serait toujours temps. Le temps de quoi, me demandais-je. Et ce jour arriva. Ce jour des disproportions. Ce jour des déséquilibres. Ce jour des protubérances. Ce jour du saignement. Cela aurait dû être un jour de promesse. Mais à partir de ce jour, je ne fus plus qu'un corps. D'abord pour les autres, pour les adultes, cela avait commencé avant. Plus tard, pour les enfants, et enfin pour moi. Il faut dire que je fus bien aidée. Je passe sur l'ampleur du phénomène, sur les volumes qui s'affirmaient, sur ceux qui apparaissaient. De ce jour, mon corps se dota d'un centre. Ce centre se situait entre mes cuisses. Je dois vous avouer que jusqu'ici, je ne m'en étais jamais souciée. Il faut dire que j'en ignorais l'existence. Un centre longtemps inexploré. Et ce n'est même pas moi qui l'ai découvert. En revanche, j'ai découvert que mon corps ne m'appartenait pas, il appartenait au regard des autres. Allongée, j'ai senti la main entre mes cuisses. Puis, après quelques secondes, la deuxième. Je voyais le crâne du gynécologue. Il prit soin de préciser que l'écartement des étriers était maximum. Je cherchais le regard de ma mère. Les mains appuyait contre ma chair. Le gynécologue finit par relever la tête. Il me regarda, comme une banalité, comme une évidence. Il me dit « Jeune fille, il va falloir que tu te décides à maigrir, sinon je ne pourrai jamais accéder à ton vagin. »
Il entoure de la maison, hyper nuit, celui bien nommé la bête, le mal grandit celui même. Il entoure de la maison, hyper nuit. Celui bien nommé la bête, celui qui buvait le lait au pimène, celui-là même qui se souvient d'un jour derrière, bien enfui, bien qu'enfui. Il n'a rien oublié du jour entre tous cruel, au bout duquel il a vu sa maison brûler, puis tomber. Là, il revient pour se venger de tout un village, de tout un village. Et là, je suis là, je suis là. Il entoure de la maison, hyper nuit, il n'a pas oublié ce jour entre tous cruel, au bout duquel tout est parti, tout en fumée, dans le ciel. Là, il revient pour se venger de tout un village, de tout un village. Et là, je suis là, je suis là. Était tombé dessus, hyper nuit, et fait passer le goût des fleurs, le goût des fleurs.
Les déboires d'un alcoolique. Au début, je procédais avec méthode. J'enterrais systématiquement les cadavres. À l'époque, j'étais favorable à l'enfouissement. Je ne niais pas le côté poussière sous le tapis, mais ce que l'on ne voit pas n'existe pas. Cela se passait derrière le bâtiment, celui qui me servait pour ranger ou entasser, c'est selon, tout un tas de bricoles. Comme ma vie, c'était devenu un vaste bordel. Une vision qui décourageait toute velléité de rangement.
Il est vrai qu'au tout début, si l'on veut vraiment remonter dans le temps, je prenais la peine d'aller jusqu'au container. Mais d'entendre une à une les bouteilles se briser me rappelait trop ce que j'étais devenu. Pour éviter ce bruit, à l'abri de la curiosité, j'avais donc creusé une fosse dont la profondeur me permettait de déposer en douceur chaque bouteille. Ceci fait, je recouvrais le tout avec une tôle. J'y allais la nuit, ce qui m'évitait de voir l'ampleur du malaise. Régulièrement, je prolongeais le trou de quelques mètres le long du bâtiment. En fonction de ma consommation hebdomadaire, de la profondeur de la fosse et du potentiel de prolongement, j'avais calculé que je disposais de plus ou moins 5 ans avant que la question d'un autre site ne se pose. À la condition, bien sûr, que je stabilise ma consommation. Quelques neurones épargnés et réfugiés dans les tréfonds de mon cerveau tentaient encore de me faire comprendre que cette stabilisation était un leurre. Je faisais semblant de compter sur ma volonté en lambeaux depuis de nombreux hectolitres. Une vague conscience m'habitait encore. Elle parvenait à s'extraire de la mélasse matinale qui me faisait office de matière grise. Au mieux, toujours coincé dans le fauteuil qui désormais était la seule entité à encore accepter mon cul, la douleur me sortait du sommeil. Le moindre geste me donnait l'impression d'avoir un tire-bouchon en action dans le crâne. Contraint à l'immobilité, j'essayais de réfléchir à ma condition qui m'apparaissait peu humaine. Devenu une loque, peu loquace, mon corps perdait peu à peu ses caractéristiques fonctionnelles. Je touchais le fond le jour où mon érection matinale ne fit même plus semblant de se donner la peine. Cette absence ne se produisit pas du jour au lendemain. Imperceptible au début, ce que je ne saurais situer, elle échappa à ma vigilance. Il faut dire à ma décharge que, sauf à m'offrir un rapide va-et-vient, cette velléité de virilité ne m'était d'aucune utilité. Comme le disait un de mes compagnons de beuverie, qui avait connu bien avant moi la rétractation des corps caverneux, j'en ai plein le cul du sexe. Je ne tirais depuis longtemps que des bouchons et la porte du marchand de vin, mon fournisseur exclusif de bouteilles. À un temps, j'avais envisagé de les briser afin qu'elles prennent moins de place. Outre le bruit, les contraintes techniques s'avérèrent trop nombreuses. Sinon, des éclats de bouteilles auraient pu être du meilleur effet. Plutôt d'une couleur sombre, le verre révélait malgré tout un grand nombre de nuances dont l'intensité variait selon la lumière. Le temps passant, l'envie de creuser me quitta. Du moins, sans parler d'envie, la nécessité de mettre en terre ne me sembla plus si évidente que cela. Le côté morbide de cette activité prit le dessus. J'avais l'impression de m'enterrer un peu plus chaque fois. Surtout quand je prenais la pelle pour creuser. La terre que je rejetais sur le côté finissait par prendre la forme d'une tombe faite à la va-vite, comme dans les westerns, celle des cow-boys morts dans un désert. Je décidai de garder les bouteilles dans la maison. J'avais toujours été persuadé de posséder une âme d'artiste, une sensibilité plastique, sans pour autant prendre le temps de la mettre à l'épreuve. Il n'était pas envisageable que je laisse traîner les bouteilles à venir. Il me fallait concilier rangement et création artistique. Tout en sirotant, je réfléchissais. Je tentais d'imaginer une œuvre monumentale à la gloire du vignoble français. Mais la réflexion ne durait jamais très longtemps. De moins en moins longtemps. De plus en plus difficilement. Je tenais de moins en moins l'alcool, alors que lui tenait de plus en plus à moi. Comme ma femme, mes forces me quittaient. Peu à peu, l'utilisation du tire-bouchon devint problématique. La soirée bien avancée, après plusieurs tentatives infructueuses, j'en arrivais à casser le goulot sur le rebord de la table basse. Éclats de verre et vin se répandaient sur le sol. Le tapis écru vira au bordeaux. C'est alors que je me suis dit que ça ne pouvait pas durer, qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose. J'abandonnai la bouteille et me mis au cubi.
Elle a eu un seul amant et ne se souvient plus du tout du cou, du baiser dans le cou. Elle me demande de l'embrasser, je ne sais plus si c'est déplacé, et je suis bien embarrassé, même juste comme ça, un baiser. Amour, amitié, je ne sais pas si par dépit ou par pitié, je franchirai cet océan qui va de l'ami à l'amant. Elle pose la main sur ma joue et ma pudeur en prend un coup. C'est fou, elle pense surtout que parfois on ferme les yeux, j'y vois des petits vaisseaux bleus qui houlent et naviguent sans cesse, gonflés d'amour et de tendresse. Amour, amitié, je ne sais pas si par dépit ou par pitié, je franchirai cet océan qui va de l'ami à l'amant. Il fait très chaud depuis une heure, mais elle a gardé son manteau de peur que je lui voie la peau. Ce qu'elle demande est redoutable, car parfois la bouche est capable de faire frissonner, et bien plus, cela elle ne s'en souvient plus. Amour, amitié, je ne sais pas si par dépit ou par pitié, je franchirai cet océan qui va de l'ami à l'amant. Mais elle a eu un seul amant et ne se souvient pas encore du corps qui se plie et se tord. Si elle a oublié les gestes de cet amour raté du reste, elle se souvient par ailleurs du coup de couteau dans le cœur. Amour, amitié, je ne sais pas si par dépit ou par pitié, je franchirai cet océan qui va de l'ami à l'amant, qui va de l'ami à l'amant.
Équilibre. Dans une demeure privée, l'ameublement de cette salle sans fenêtre aurait été qualifié au choix de sobre, de minimaliste, de spartiate, voire de fonctionnel. Là, une telle préoccupation ne venait pas à l'idée. Soit parce que la personne qui entrait était fatiguée, soucieuse, inquiète, apeurée, soit parce qu'elle ne voyait rien d'autre que l'individu qui se trouvait en face. 4 chaises et une table rectangulaire éclairée par une ampoule. Des murs d'une couleur proche du blanc, une glace qui semblait fixée au mur situé près de la porte. Assise, Jeanne y voyait son visage. Elle attendait en silence. Elle n'avait rien préparé. Elle essayait de se souvenir de la première fois, où elle l'avait rencontré. Depuis quelques jours, sa mémoire avait dératé, surtout quand il s'agissait de Pierre. Probablement lors d'un mariage. De l'église jusqu'à la soirée dansante, en passant par le vin d'honneur, cela donnait éventuellement le temps de choisir. On pouvait observer tout à loisir, faire quelques approches, entamer une conversation sans pour autant donner à penser que l'on était prête à aller plus loin. En d'autres termes, on pouvait s'adonner au butinage. Avec Pierre, j'avais opté pour l'option badinage. Sans que ce soit un coup de foudre, je l'avais remarqué sur le parvis de l'église, ce moment de retrouvailles où officiellement personne n'a changé quand nos pensées expriment le contraire. Je l'ai retrouvé au vin d'honneur qui avait lieu dans un verger au milieu des arbres en fleurs. Quoi de plus romantique pour une jeune fille? Après plusieurs rapprochements à la légèreté printanière, il m'embrassa lors d'un slow, comme seules les fins de soirée nous en offrent. Nous nous sommes revus, et je me suis retrouvée mariée. J'en ai pris conscience quand je me suis retrouvée dans la chambre pour la nuit de noces. L'impression d'avoir dit oui sans réfléchir, prise dans un mouvement qui m'avait entraînée jusque dans ce lit où Pierre m'attendait. Comme le disait ma mère, « Oh, ne vous inquiétez pas, elle s'adapte facilement. » Alors, j'ai opté pour l'adaptation. Mais comme pour tout ou presque, chaque situation connaît ses limites. Bien que cela ne puisse être détecté dans ses relations avec l'extérieur, Pierre était un homme d'ordre. Chaque chose devait être rangée bien à sa place. Il ne supportait pas la poussière sur les meubles, une tasse qui traîne dans l'évier, un faux pli sur une chemise. Il jeta par-dessus la rambarde les quelques fleurs que j'avais mises pour décorer le balcon. Il n'aimait pas ce qui encombrait. J'étais responsable de la tenue de l'appartement. Au début, Pierre m'adressa de simples remarques à propos de ce qui, de son point de vue, n'allait pas. Puis ce furent des reproches, par la suite accompagnés d'invectives, de propos humiliants. Et un jour, il finit par m'asséner une claque. La sidération me laissa sans réaction, si ce n'est les larmes. Avec le temps, il ne s'embarrassa plus de prétexte pour me frapper. Je ne m'adaptais plus, je subissais. Le dimanche midi, avant le déjeuner, il avait l'habitude de boire un verre sur le balcon. L'idée me vint, un jour de printemps. La brise faisait remonter le parfum des arbres qui longeaient le fleuve. Quelques nuages blancs apportaient un peu d'ombre. Je me serais bien allongée pour bronzer. Je fis remarquer à Pierre qu'à la réflexion, c'était mieux de ne pas encombrer le balcon de choses inutiles. Donc, madame, vous maintenez que votre mari a accidentellement basculé par-dessus la rambarde du balcon.
En ce joli mois de mai, les nouvelles du jour ont été interprétées respectivement par Pierre Chédeville, Maria Vitali et Frédéric Vitali. Quant à l'habillage sonore, il est l'œuvre de Jean Clarksville.
Rendez-vous le mois prochain. D'ici là, bonne nouvelle, bonne nouvelle.